Et j'en viens maintenant au deuxième des grands points dont je veux parler, c'est la nature de la grâce. Au XIVe siècle, de grandes discussions ont opposé en Grèce, sur le mot Athos et dans le monde de langue grecque, deux théologies que l'on peut dire incompatibles. La théologie... Je vous en prie. La théologie mystique de Saint Grégoire Palamas et la théologie scolastique des tenants de l'Occident. Si vous placez sur un point de vue scolaire et académique, ces discussions semblent extrêmement étranges. Voilà deux groupes qui discutent de la nature de la grâce. Les uns affirment que la grâce est un effet créé, une surnature que Dieu donne à ses élus, et d'autres qui affirment que la grâce est Dieu même. Sur quoi est fondée cette discussion? D'où est-elle née? Parce que sur le plan académique, la réponse que nous pourrions donner, c'est qu'au fond, nous n'en savons rien. Il n'y a pas une phrase que nous puissions citer de l'Écriture sainte qui soit simplement une réponse à la question. Mais cette question n'est pas née d'une recherche scientifique. Elle est née dans les solitudes et dans les monastères du mont Athos. Et elle est née d'une expérience concrète et d'un problème concret. Le problème est le suivant. Dieu est-il accessible et peut-il devenir intimement connu? Nous est-il proche au point qu'une parenté réelle puisse s'établir entre nous? Ou bien Dieu est-il totalement transcendant et transcendant sans espoir? Voilà les deux théologies. Si Dieu peut se communiquer à nous, si Dieu peut se donner, alors, dans le mystère de cette communion, de ce don de la grâce reçu, assimilé, qui porte fruit dans une vie humaine, il y a entre Dieu et l'homme un lien. Et la vieille théologie de l'Orient chrétien, qui nous enseigne que notre vocation, c'est la théosis, la divinisation, le fait, si vous voulez parler en termes scripturaires, défini par Saint Pierre dans son épître général, où il dit que nous sommes appelés à devenir participants de la nature divine, alors tout cela est vrai. Si au contraire la grâce n'a rien de commun par sa nature avec Dieu, si c'est simplement un don, si c'est quelque chose que Dieu crée et qu'il nous donne, alors il y a une rupture de continuité infranchissable entre Dieu et nous. Alors, jamais, ou tout jamais, nous ne rencontrerons Dieu. La grâce nous apparaît dans ce cas comme un cadeau divin. Mais le donateur nous reste complètement étranger. Un don que nous recevons, si vous voulez, par la poste. Un chèque, un cadeau. Nous pouvons savoir que ce cadeau est le signe d'une tendresse divine. Mais il ne nous révèle que cela. Il ne nous rend pas proche de Dieu. Et il ne rend pas Dieu proche de nous. Nous lui restons radicalement étrangers. Et voilà où était le problème de l'expérience mystique du mont Athos à ce moment-là. Voilà d'où est venue la discussion théologique. S'agit-il là d'une impossibilité à atteindre Dieu et d'une impossibilité pour Dieu de nous atteindre, ou y a-t-il une route qui nous conduit à Dieu, mais d'une façon profondément intime, dans un acte de vraie communion? Eh bien, et ceci est le troisième point dont je veux parler, il y a là tout un problème de théologie pure, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu. Toute notre connaissance expérimentale, existentielle de Dieu est un paradoxe, en ce sens que nous savons que Dieu est transcendant et dépasse toute chose, et pourtant nous le connaissons intimement. Nous savons qu'il est inconnaissable, et pourtant il se révèle. Nous le savons hors de toute proportion avec nous, et nous sommes ses semblables. Toute la théologie et toute l'anthropologie sont marquées par ce paradoxe, cette tension qui existe entre les affirmations opposées que nous avons le droit de faire, entre ces thèses que nous devons poser, parce qu'elles sont toutes les deux justes. Dieu inconnaissable et pourtant connu. Dieu totalement mystérieux et pourtant révélé. Dieu qui, par sa nature, nous est complètement étranger, et pourtant qui nous promet d'être participants à la nature divine. Et c'est cela qui a conduit les pères de l'Église, particulièrement en Orient, à penser ce que nous savons de Dieu en soi et de Dieu dans sa révélation. En bref, nous pourrions dire ceci. Il y a trois niveaux de connaissance qui nous appartiennent. Nous connaissons Dieu par ses actions, sa charité ou sa justice ou d'autres qualités que nous appelons souvent des attributs par analogie avec l'interprétation que nous donnons à des actions humaines similaires. Nous connaissons Dieu par sa révélation sur un autre plan, en ce qu'il est. Nous le connaissons comme Dieu un dans la Sainte Trinité. Et nous savons aussi, et je crois qu'il est important de se rendre compte qu'il y a, en plus de cette connaissance révélée, une connaissance qui dépasse la révélation, nous savons aussi que Dieu reste inconnaissable, insaisissable, de façon éternelle et radicale. Je voudrais vous donner une analogie pour que cela soit plus simple à comprendre, et aussi parce que je crois que l'analogie tient en elle-même. Il y a dans toute personne, qu'elle soit humaine ou divine, la même situation par rapport à l'autre, celui qui le rencontre. Lorsque vous connaissez quelqu'un très peu, après une rencontre ou deux, il vous semble que vous pouvez le décrire avec une certaine précision. Il a un extérieur. Il s'habille d'une certaine façon. Sa démarche, vous pouvez la décrire. Sa voix. Quand vous connaissez cette personne un peu mieux, vous pouvez aller un peu plus loin et décrire sa mentalité, la façon dont sa pensée se développe, la façon dont il réagit sur le plan émotionnel, toutes les diverses qualités que l'on décrit en psychologie. Mais quand vous êtes arrivé à un certain degré de connaissance, vous voyez que tout ce que vous avez dit auparavant et tout ce que vous pouvez dire maintenant n'est plus vrai. Il arrive un moment où vous connaissez une personne trop pour pouvoir la définir. Parce que chaque fois que vous posez à son sujet une affirmation, vous vous rendez compte que vous devriez la corriger par une série d'affirmations qui devraient inclure toute la personne. Chaque fois que vous dites de quelqu'un que vous connaissez profondément quelque chose, il y aurait une requalification qui engloberait tout le reste que vous devriez donner. Et c'est cela qui crée cette théologie que l'on rencontre chez les pères, où à chaque affirmation correspond la négation correspondante. Non pas simplement pour montrer que Dieu ne peut être exprimé que sous forme de paradoxe, parce qu'on ne peut pas l'exprimer, mais parce qu'on veut dire par là que chaque fois que je dis quelque chose, au fond, je calomnie Dieu, je mens, ce n'est pas vrai. La seule chose que je pourrais dire de Dieu, c'est ce que je ne peux pas dire de lui. C'est ce qui dépasse ma parole. Et ceci est vrai aussi dans nos relations humaines, par rapport aux êtres humains. Et puis, si vous allez encore plus loin, vous entrez dans une zone que, par rapport à la divinité, saint Michael d'Égypte, ou saint Grégoire de Nazianze, appelait la zone du silence. Lorsqu'il disait que la théologie commence là où commence le silence. Parce que, disait-il, la théologie est la connaissance de Dieu et non pas une connaissance au sujet de Dieu. Eh bien, l'acte de connaissance est toujours l'acte de silence. C'est une découverte qui se passe dans le silence contemplatif, dans la prière, dans l'adoration, dans la vénération, dans l'acte de foi, dans l'acte d'amour. Et ceci est vrai aussi par rapport aux êtres humains. Si vous voulez découvrir votre interlocuteur, vous devez faire le silence en vous et le voir tel qu'il est, et non pas commencer à choisir et à former une image. Ce n'est que lorsque nous savons nous taire profondément que nous pouvons voir profondément. Et par rapport à un être humain, comme par rapport à Dieu, il y a cet élément de silence et cette zone intérieure qui est le mystère de la personne, qui est le point d'où jaillit tout le reste. Mais ce point, vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas l'analyser. Il est inconnaissable. Vous pouvez vous tenir silencieusement alentour. Si vous êtes dans la montagne et que vous découvrez une source d'eau vive et que vous commencez à en chercher l'origine, vous allez creuser et creuser et jamais vous n'arriverez au cœur de cette source. Vous n'arriverez jamais à découvrir le jaillissement parce que ce jaillissement est dans les profondeurs mystérieuses de la terre. Il en est de même dans le jaillissement d'une personnalité. Il y a un cœur, un centre d'où tout jaillit, mais qui reste mystérieux lui-même. C'est cela que saint Grégoire de Nice, par exemple, et les pères de sa tradition voulaient exprimer lorsqu'il disait que, après saint Denis l'Areopagite, lorsqu'il parlait des ténèbres divines. Certes, non pas dans un sens qui contredirait l'Écriture, qui nous dit qu'il n'y a pas d'obscurité en Dieu, Dieu est lumière, mais dans le sens où saint Siméon, le nouveau théologien, nous dit que Dieu est une telle surabondance de lumière et d'éclat que lorsque nous le regardons, nous sommes aveuglés et nous ne voyons qu'une obscurité devant nous. Ce que nous pouvons découvrir de Dieu, même dans la révélation la plus haute, celle de Dieu un dans la Trinité, ou dans les relations, dans les révélations plus simples qui sont des relations, ce n'est encore pas le mystère de Dieu. Si bien que l'on peut dire que lorsque nous pensons à Dieu, nous devons savoir qu'au cœur des choses se trouve le mystère insondable, connu de Dieu seul, que personne de nous jamais ne connaîtra comme Dieu se connaît. Ensuite, il y a toute la zone des révélations de Dieu sur soi-même. Je suis celui qui est. Je suis le Père, le Fils et l'Esprit. Je suis un et je suis trine. Je suis amour. Et ensuite, il y a ce que saint Grégoire Palamas et d'autres théologiens et mystiques à sa suite ont appelé les débordements de Dieu, disant par là que Dieu n'existe pas dans les catégories humaines de l'essence et de l'accident, qui n'existe pas dans les catégories humaines de la nature ou de la personne, mais qu'il existe en soi et en dehors de soi, si nous pouvons parler en termes humains. Il y a dans l'acte divin, dans l'acte d'amour divin, non seulement un acte qui agit par l'intermédiaire de quelque chose, il y a une puissance, une force, une action divine qui est Dieu même agissant. Et ce que nous rencontrons dans la prière, dans les sacrements, dans l'expérience contemplative, ce n'est pas une lumière reflétée. C'est la vision, c'est l'expérience de la lumière qui est celle de la lumière divine. Ce n'est pas une présence par interposition. C'est Dieu lui-même qui nous atteint, qui nous touche, qui nous pénètre. Et l'expérience à laquelle Saint Grégoire faisait allusion a été exprimée d'une façon très frappante, 3 siècles auparavant, par Saint Siméon, le nouveau théologien. Il nous dit, dans une de ses odes, que rentré de l'église, après avoir communié, il se trouve assis sur son grabat, dans une petite cellule de terre. Et il dit, je regarde autour de moi, je regarde ses membres frêles et indignes, et je suis rempli de terreur, parce que par le mystère de la communion, ses mains sont les mains de Dieu. Ce corps est pénétré de la présence de Dieu même. Et cette cellule misérable s'est déployée à la mesure de l'immensité du ciel, parce que Dieu, dans cette plénitude, est là par le mystère de la communion. Je ne fais pas en ce moment je ne veux pas discuter la question du sacrement comme tel, mais de cette expérience de base qui fait que dans la prière, dans la communion, dans toutes ces rencontres mystérieuses avec Dieu, nous savons d'expérience que c'est Dieu lui-même que nous avons rencontré. Et c'est cela que nous appelons la grâce. Cet épanchement divin qui n'appauvrit pas Dieu lorsqu'il atteint la créature, mais qui est Dieu même qui a atteint la créature et qui la transforme. Si cela est vrai, alors Saint Pierre a dit la vérité. Oui, nous devenons participants à la nature divine. Oui, les pères grecs avaient raison lorsqu'ils disaient que nous sommes appelés à devenir par la grâce ce que Dieu est par nature, dans la mesure où il est communicable. Oui, c'est vrai de dire avec Saint Athanase que le Verbe est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, c'est vrai que lors de l'ascension, le Christ en gloire est entré dans le mystère de la Trinité avec son humanité. Autrement, l'humanité doit tomber. Elle doit tomber comme des écailles, elle doit tomber comme un vêtement qui ne peut pas entrer dans ce mystère de feu. Si le Christ est réellement homme pour toute l'éternité, et si notre humanité par lui est incluse dans le mystère du Dieu un et trine, eh bien, c'est que réellement, notre humanité est capable de porter la présence réelle de Dieu, d'être pénétrée de divinité. Et alors, nous pouvons dire, oui, la grâce est un déferlement de Dieu qui se communique. Et la grâce est notre transformation dans ce que nous sommes appelés à être. Un être humain qui est en même temps porteur de ces énergies vivifiantes de Dieu. Alors, oui, ce que Saint Maxime disait dans une de ses homélies sur l'incarnation est vrai. la nature humaine et la grâce divine s'unissent en nous comme le feu qui pénètre un glaive. Ce glaive lourd, froid, éterne, devient éclatant et brûlant. Et dit-il, on peut brûler avec l'acier et on peut trancher avec le feu. Eh bien, voilà ce que je crois être essentiel dans une mise en place de cette question de la grâce. Je ne sais pas si j'ai pu vous faire suivre le cheminement de ma pensée, si j'ai pu vous amener à saisir quelque chose de ce mystère, mais je voudrais que vous y pensiez dans ces termes, parce que ce n'est que à partir de l'expérience vivante du pécheur comme du saint, de l'Église comme de celui qui est en dehors d'elle, et du Christ, que nous pouvons arriver à une compréhension, mais qui est intérieure, non pas à une théorie logique, non pas à une démonstration de la grâce dans ce plan logique, mais dans une certitude qui fait que nous disons, oui, je sais, la grâce fait de moi autre chose qu'une créature déchue. Dans la grâce, je deviens ce que le Christ était. Dans la grâce, j'entre dans un mystère qui est un mystère d'éternité. Voilà.